Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Les grandes voix jusqu'à 19h chaque soir en direct sur Europe 1. Et je suis ravie de les accueillir à mes côtés dans ce studio. Michel Cotta, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Charles Villeneuve est également à mes côtés. Bonsoir Charles Villeneuve.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Et Hervé Gattegnaud. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Merci d'être ici dans ce studio tous les trois. Vous avez également, vous les auditeurs, votre mot à dire au 39-21 jusqu'à quasiment 19h. On va décortiquer l'actualité tous les soirs ensemble. Ce lundi, on est servi hein, sur un plateau avec la conclusion de ce G7. Emmanuel Macron qui clôture ce soir, évidemment. Hervé Gattegnaud, je voudrais juste dire un mot. Hervé Gattegnaud, parce que vous êtes évidemment le directeur de la rédaction du JDD, vous avez apporté, le journal du dimanche pour être exact, vous avez apporté de nouveaux éléments ce week-end dans l'affaire du prétendu financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'est un feuilleton hein, que l'on pourra encore suivre dans vos colonnes, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un feuilleton qui a commencé le 14 juillet et qui consiste pour l'essentiel à aller revoir pièce par pièce ce fameux dossier très mystérieux sur lequel il faut bien dire que la presse française n'a pas énormément travaillé alors que c'est une affaire absolument incroyable, soit la plus grande affaire de corruption qu'on ait jamais vue dans ce pays, soit probablement la plus grande fake news de l'histoire moderne de la France. Et il n'y a pas de troisième possibilité, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais.
On y reviendra et c'est à suivre dans vos colonnes, bien sûr. On va entendre Emmanuel Macron pour démarrer, si vous le voulez bien, ce sommet du G7, cette conférence de presse, ce 20h tout à l'heure. Écoutons d'abord le président tout à l'heure en introduction de cette conférence.
Il y avait beaucoup de nervosité au début de ce G7, beaucoup d'attentes, parfois beaucoup de tensions, de conflictualités qui pouvaient être rapportées. Et je peux ici vraiment dire que ce à quoi nous avons tenu ensemble tout particulièrement, c'est qu'un message d'unité, un esprit positif des discussions puisse ressortir. Et c'est ce qui est vraiment ressorti de nos échanges sur de nombreux sujets.
Michel Cotta, tout sourire Emmanuel Macron, on l'entend dans sa voix, on le sent, on le voit, un G7 réussi.
Il faut voir d'où on partait, surtout. Il faut voir ce qu'on a dit, nous tous, avant. C'est-à-dire, pourquoi un G7, à quoi ça sert, est-ce que c'est encore efficace, c'est simplement 48% de la population, 10% de la population, 48% du PIB, etc. À quoi ça sert? Bon, on se retrouve 3 jours après, avec un sommet où Macron a fait la preuve, quand même, qu'il pouvait prendre des initiatives peut-être théâtrale, mais initiative néanmoins. Deux, où il a fait la preuve que, après tout, Donald Trump, on pouvait lui parler. C'est tout à fait nouveau. Enfin, en attendant, dans l'esprit français, on sait toujours que Donald Trump, il faut attendre qu'il reprenne son avion pour qu'il règle ses comptes. Mais enfin, en l'occurrence, là, ils ont fait une conférence de presse commune et c'est très bien. Et deux, trois, on s'est aperçu qu'il y avait des avancées concrètes sur un certain nombre de terrains sur lesquels on repartira. Puis je voulais juste, juste dire, on a beaucoup parlé de l'anti-sommet aussi. Qu'est-ce qu'on a parlé d'un sommet? Eh bien, ce sommet a été un flop complet. Et alors, dans la mesure où on disait que c'était un test pour le ministre de l'Intérieur, alors franchement, chapeau pour le ministre de l'Intérieur.
C'est-à-dire que Castaner sort renforcé.
Castaner est le premier gagnant.
Michel, vous applaudissez, et pour cause. Enfin, je voudrais souligner un aspect avec vous, Charles Villeneuve. Peut-être, on voit dans Macron, là, à ce moment-là, qu'il est capable de jouer le coup de com' à la Trump, à la Poutine, à la Boris Johnson. Il invite l'Iranien, il devient imprévisible, un peu à la façon du président américain.
Non, mais Nathalie, d'ailleurs, je suis d'accord avec ce qu'a dit Michel, sauf que j'apporterai une nuance. C'est qu'il a préparé, dès l'été, de toute façon, l'affaire du ministre iranien. Il a d'abord informé le président des États-Unis. Il l'avait informé bien auparavant, durant aussi l'hiver et même le printemps, bien sûr, quand il a commencé à entrer en liaison avec l'exécutif de Téhéran. Et ensuite, petit à petit, il a construit, c'est vrai, un peu comme une pièce de théâtre, en voyant à Chantilly le ministre iranien, en voyant le premier ministre chinois sur la Côte d'Azur, puis le russe Poutine à Brégançon. et chaque fois en informant le président des États-Unis. Parce que le président des États-Unis, il est fortement improbable, et imprévisible, et il est bien évident que tant qu'il n'a pas, comme tu le disais, repris Air Force One, il peut changer parfaitement et bombarder la planète de tweets qui ne correspondent pas, si vous voulez, à ce qu'il a dit durant la conférence.
Et puis, il n'aurait pas dit « allez-y » à Emmanuel Macron s'il n'avait pas été au courant.
Mais là, au moins, je serais aussi plus nuancé. C'est dans les réponses du président des États-Unis sur l'Iran, puisque c'est autour de l'Iran qu'une grande partie a tourné.
Alors, on va y revenir dans la deuxième partie, si vous le voulez bien. Charles, je voudrais vous entendre, Hervé Gattignon, parce que moi, je me dis, c'est surprise, là, cette façon de faire. Est-ce que ça montre que la France est à la manœuvre, là, revient au centre du jeu?
La France est au centre du jeu quand elle reçoit le G7 à Biarritz, donc c'est la moindre des choses que les autres leaders mondiaux laissent la main, en quelque sorte, à l'organisateur. Ensuite, comme vient de le dire Charles, c'est de l'improvisation fabriquée, c'est-à-dire c'est de l'improvisation très très préparée. De ce point de vue-là, ça n'est pas comparable à ce que fait Donald Trump ou Boris Johnson, c'est-à-dire que c'est pas, ça lui prend pas le matin au réveil comme ça, comme une sorte de pulsion. Tout ça est très préparé et en effet, il avait décidé de monter ce coup. Du point de vue diplomatique, la réussite de ce sommet, c'est qu'en effet, il prend des initiatives que les autres le laissent en prendre et que donc, ça donne le sentiment qu'il peut se passer des choses.
Et ce qui est quand même un peu nouveau
rappelez-vous que quand même, ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron lance des initiatives. Il l'a fait sur la Libye, il l'a fait sur le retrait des troupes en Syrie, en Afghanistan, il l'a fait sur les travailleurs détachés. La question ensuite, c'est pour quel résultat? Et alors, évidemment, il est un peu tôt pour le dire. Donc, effectivement, sur le plan du théâtre diplomatique, il marque des points. À moyen terme, on ne sait pas si ça débouchera vraiment sur quelque chose.
On verra quel résultat, parce que là, la communication est parfaite. On verra quel résultat. Je voudrais simplement qu'on prenne un auditeur, si vous le voulez bien, dans ce rendez-vous quotidien ensemble. Nicolas de Sainte, en Charente. Bonsoir à vous, Nicolas. Merci de réagir en direct ce soir sur Europe 1.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tout le monde.
Alors, on est ravis de vous entendre. Vous, comment avez-vous vécu ce G7 et cette action Macron?
Alors moi, je vais pas vous cacher, je suis totalement politique, je suis ni pro ni anti-Macron. Maintenant, j'entends beaucoup parler de communication autour d'Emmanuel Macron, etc. Il ferait de la com et compagnie. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Que ce soit préparé, que ce soit de la com, tout ce qu'on veut, il a au moins pris l'initiative de contacter Mohamed Jawad Zarif, que j'écorche pas son nom. Voilà le ministre des Affaires étrangères iranien, et je trouve ça très bien ce qu'a fait Emmanuel Macron.
Bon, coup de maître donc, dites-vous, pour le président Macron, un bon G7, donc une bonne opération de com, c'est ce que vous nous dites ce soir, Nicolas, depuis Sainte en Charente. Merci à vous. Les grandes voix, on va vous retrouver dans un instant. On a du temps, Michel. On a du temps, Charles. On a du temps, Hervé Gattegno, sur Europe 1. On se parle jusqu'à 19h. On va retourner au sommet du G7. Restez
mais
avec nous.
Nous n'avons aucune angoisse.
Tant mieux, parce que pour la première, ça aurait été embêtant. Restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans un tout petit instant.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Hervé Gattegno. Et toutes vos réactions en direct, ça se passe au 39-21, 50 centimes la minute.
Ça a avancé, il s'est passé des choses, on l'a dit, Charles, Michel, Hervé. Donald Trump, sur le dossier iranien, il a même été plutôt prolixe. En tout cas, il n'exclut pas cette potentielle rencontre avec Rouhani.
Est-ce que vous seriez d'accord à rencontrer le président Rouhani? Oui, si les bonnes circonstances s'y prêtent, bien sûr.
Alors, prolixe, j'ai peut-être...
Mais pour le moment, ils doivent se tenir aux règles du jeu. Si vous voyez ce que je veux dire, ils doivent faire attention, ne pas faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, sinon on va devoir utiliser de la force très violente.
Alors, pour lui, j'ai peut-être été un petit peu ambitieuse, mais en tout cas, il n'a pas fermé la porte, Donald Trump.
Non, mais il ne ferme pas la porte, mais il pose des conditions en disant ça dépend les circonstances. Et les circonstances, c'est quoi? C'est qu'ils renoncent de toute façon à l'enrichissement de l'uranium. C'est qu'ils acceptent de toute façon tous les oukases américains, notamment par rapport au pétrole, à l'évasion de pétrole, etc. Donc, il ouvre la porte, mais il ouvre la porte à beaucoup de conditions. Il n'a pas dit oui, bien évidemment, en sortant
du G7. Il ne pouvait pas dire oui, Charles, Michel.
Non, c'est pour ça qu'il faut, si vous voulez, il ne faut pas s'extasier non plus. C'est indéniablement, et je reviendrai d'ailleurs juste en un mot sur ce que l'auditeur disait, on n'a pas dit que c'était de la com, pas du tout. On a dit que c'était minutieusement préparé.
Absolument.
et que c'était un travail de professionnel, comme il en a l'habitude, et d'ailleurs Hervé Gattiano a rappelé toutes ses initiatives et l'audace qui caractérise ses initiatives. Mmh. Évidemment, là, manifestement, n'oubliez pas non plus que le président des États-Unis est en campagne électorale, que dans un an, il y a l'élection présidentielle, et que parmi ce qu'on reproche dans les sondages, pardon l'Italie, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il ne remplit pas, si vous voulez, suffisamment la légitimité de la fonction. Et donc là, il a rempli la légitimité de la fonction.
Quand Donald Trump, Michel, dit cette rencontre, elle est réaliste, parce qu'il emploie ce terme-là, hein. C'est pas moi qui l'invente.
Il couvre, Emmanuel Macron de fleurs, lequel le couvre aussi de roses, sans épines. Mais moi, c'est quand même, ce qui me paraît intéressant sur l'Iran, c'est qu'il y a tout de même un rapprochement, il y a quand même une ouverture. Il y a du côté français, donc européen, les Français qui disent oui, c'est vrai, cet accord était mal ficelé, il a oublié tout ce qui est missiles, tout ce qui est présent. C'est ce que disent les Anglais et les Allemands, qui étaient présents d'ailleurs à la négociation avec, avec le ministre. Donc, de ce point de vue-là, même Emmanuel Macron dit moi, j'étais le dernier à vouloir signer ce traité, etc. Donc, il ouvre sur le fait que le traité 2015 n'était pas un bon traité, ce que prétend depuis longtemps Macron, enfin depuis qu'il est arrivé au pouvoir.
Oui, mais ce qui n'était pas le cas quand Macron l'a dénoncé, tout le monde a dit qu'il était en partie irresponsable.
Alors, justement,
maintenant, il s'aligne évidemment sur les exigences de Trump.
Lequel Trump dit c'est pas fermé. Oui, il donne ses conditions, il peut pas en changer.
Donc, voilà.
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est le rôle d'entraîneur de l'Europe qu'a eu Emmanuel Macron. On a commencé aussi ce sommet en disant l'Europe est divisée. Au fond, de quelle voix parlera-t-elle? Finalement, elle a parlé de sa voix.
Non, mais il est le seul.
Les autres sont très handicapés. On est
Hervé, Macron, il prend des risques sur l'Iran. Clairement, il avance au prix peut-être d'une certaine confusion pour un résultat, on ne le sait pas, incertain. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire aujourd'hui. En tout cas, il y va, il redéfinit de cette manière-là, en quelque sorte, ses relations avec Donald Trump.
Oui, il redéfinit ses relations avec Donald Trump d'une certaine façon, en montrant qu'il a du poids. Il a d'autant plus de poids que ses autres partenaires, ses autres alliés, eux, sont très affaiblis. Donc, il est en position de leadership objectif. Angela Merkel ne peut plus lui faire concurrence. Elle a trop de difficultés dans son propre pays. La Grande-Bretagne est dans un bazar inimaginable. L'Italie, n'en parlons pas. Et puis, ce n'est pas le Japon, sur le plan diplomatique, qui peut parler en entraînant les autres, parce que le Japon, c'est le Japon. Alors que Emmanuel Macron, en ce moment, c'est la voix de l'Europe. Donc, c'est vrai que objectif. D'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin le disait dans les colonnes du JDD ce week-end. Objectivement, Emmanuel Macron est en position de force. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand on discute de l'Iran avec les Américains et avec Donald Trump, il y a évidemment la question cruciale de l'Iran et du nucléaire, mais il y a aussi la question du multilatéralisme, c'est-à-dire quel type de solution est recherchée par le G7 et par Emmanuel Macron? Là-dessus, Donald Trump ne répond pas. Quand il dit qu'une rencontre est envisageable, on a toujours le sentiment qu'il parle pour lui. Il a d'ailleurs rappelé juste avant le G7 que personne ne parle pour l'Amérique. Seul Donald Trump parle pour les États-Unis. Et donc, il y a eu aussi une petite palinodie dimanche matin sur la question de savoir si le G7 avait mandaté ou n'avait pas mandaté Emmanuel Macron pour parler avec les Iraniens. Donald Trump a dit que non. Donc vous voyez que tout ça n'est pas très clair. On avance parce qu'on rétablit les conditions d'une discussion. Mais est-ce que pour autant Donald Trump est d'accord pour jouer le jeu du multilatéralisme? Rien n'est moins
sûr. On va aller sur l'escalade Macron-Bolsonaro, hein, le président brésilien, dans une petite seconde. Je voudrais juste faire un tour de table et commencer avec vous, Charles Villeneuve. Qu'est-ce que cette action Macron, cette façon de faire là aujourd'hui, est-ce que ça peut plaire aux Français? On a l'impression qu'il a changé, Emmanuel Macron.
Qu'il est devenu de plus en plus professionnel. C'est
vous qui le dites.
Bah, il progresse.
Non, je sais pas. Il y a une forme de avec ce coup politique, coup diplomatique.
Il l'est devenu parce qu'on oublie dans cette affaire du dossier iranien, on oublie que évidemment ça s'inscrit, si vous voulez, dans un contexte beaucoup plus difficile. Et il y a un avertissement qui a été délivré à l'Iran. Et on oublie de le souligner. D'ailleurs, il en a parlé. C'est l'embrasement de la région et le fait que Téhéran ne doit pas s'immiscer dans les affaires du Liban, s'immiscer dans les affaires de Syrie, s'immiscer dans les affaires de l'Irak et faire attention notamment aussi par rapport au Yémen. Et c'est un avertissement assez sérieux. Et là, vous avez vu d'ailleurs l'avertissement du président des États-Unis en disant qu'on est prêt à utiliser la force.
La force.
Et simplement, juste en une ligne, c'est qu'il y a 15 jours à Abu Dhabi, se sont réunis non seulement tout le Golfe, mais aussi une délégation israélienne, mais aussi égyptienne et encore saoudienne, notamment par rapport aux pressions militaires qu'exerce l'Iran. Donc, vous savez, ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine.
Alors, on va y revenir et puis je voudrais vraiment vous entendre sur là, ce qui se passe entre Bolsonaro et Macron. C'est évidemment monté, le ton est monté au fil des heures. On y vient dans un tout petit instant. On sera aussi avec un auditeur, des auditeurs, au 3921 sur Europe 1, j'espère, Anissa.
Bien sûr, vous pouvez réagir, interpeller vos grandes voix sur Europe 1. N'hésitez pas jusqu'à 19h. Ça se passe au 3921 et sur les réseaux sociaux. On lit vos messages, vos réactions, vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy. À 18h50 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Michel Cotta, Charles Villeneuve, Hervé Gattegnaud et toutes vos réactions en direct sur Europe 1 au 39-21, 50 centimes les minutes.
Pour notre plus grand plaisir, les grandes voix, pour ce lundi de rentrée dans ce studio Europe 1 et pour votre plus grand plaisir à vous, les auditeurs 39-21, vous l'avez entendu. On reste sur ce sommet du G7 avec ses conclusions ce soir et le président Macron qui s'exprime ce soir aux 20h parce qu'il y a énormément d'aspects, évidemment. Un aspect qui ne vous a pas échappé, c'est cette escalade verbale entre Emmanuel Macron et le président brésilien, Bolsonaro. Le ton est monté très vite parce que quand on touche à la femme de Emmanuel Macron, du président Macron, et j'allais dire, de toute façon, est-ce qu'il n'a pas dépassé les bornes, Bolsonaro ? On va rappeler les faits très vite, Michel Cotta, et vous allez réagir. Il dénonce d'abord une ingérence de la France quant au feu, parce qu'évidemment, il y a l'Amazonie en flammes. Et là, il se moque de Brigitte Macron sur Facebook, ça se passe hier. Il reprend en fait à son compte un commentaire offensant. Il le reprend à son compte, et là, ça part, ainsi que un ministre qui s'en prend lui aussi à Emmanuel Macron, enfin... s'enchaîne.
Non mais franchement, je trouve ça insupportable. Mais si on voit le début des choses, c'est vrai que lorsqu'Emmanuel Macron tout seul prend l'initiative de condamner les incendies au Brésil, c'est vrai qu'il ne demande pas, le soutien de la Bolivie, du Paraguay, qui sont également concernés par ces feux. Donc c'est vrai que la démarche apparaît solitaire. Donc, à la rigueur, on peut comprendre que le président Bolsonaro l'ait mal pris.
Non, mais il le fait aussi parce qu'une partie de la Guyane.
Voilà.
Il considère que Bolsonaro n'a pas tenu sa parole envers lui.
Voilà.
Ils ont parlé de la question de la déforestation
et que Bolsonaro avait dit oui et qu'il a fait le contraire. Il n'a pas tenu sa parole. Donc, au fond, la critique essentielle, c'est que Bolsonaro n'a pas tenu la parole qu'il avait donnée. Alors après, qu'il insulte ou pas la présidente, laquelle était d'ailleurs dans des tenues absolument admirables, j'ai trouvé, pendant ce sommet.
Parce que les conjointes étaient aussi bien habillées. On les a vues.
Vous voyez, là, pour le coup, ça, sur le plan politique et médiatique, ça, c'est un excellent coup pour Emmanuel Macron. Parce que
ça ressemble au rodomontade de Salvini en Italie. Tout à fait, c'est ce que
on est exactement dans le même cadre. Et ça, ça valorise énormément Emmanuel Macron devant les Français et devant les Européens.
Juste pour les auditeurs. Ça verdit sa politique, ce qui est important.
Ça, les Européennes sont passées par là. Mais juste, je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent peut-être la réaction d'Emmanuel Macron. D'abord, il dit « je ne vais pas réagir en fait, aux propos de Bolsonaro ». Façon de dire « je ne vais pas me mettre à son niveau ». Et puis finalement, il déplore les propos extrêmement irrespectueux du président brésilien. Il ajoute « Les femmes brésiliennes ont sans doute honte. J'espère que les Brésiliens auront rapidement un président à la hauteur. » Une fois qu'il est lancé, il ne s'arrête plus.
Oui, mais il a raison. Au fond, on l'a dit. Lui, il est offensif. Et en retour, Bolsonaro est offensant. Et donc ça, devant les Français, si vous voulez, ça a une vertu extraordinaire. Il y a une pédagogie de ça. Le concert des nations, ça ne peut pas être un débat de ce niveau-là. Et donc, c'est vrai qu'un président devant ses citoyens qui se conduit d'une façon offensive, ça flatte le citoyen. Même le Français qui n'est pas favorable à Emmanuel Macron peut trouver que ça a des vertus, qu'il a de l'audace, qu'il essaye de faire avancer les choses. Et sur la question de la déforestation, c'est un enjeu mondial. Tout le monde commence à le comprendre. En retour, il a un dirigeant d'extrême droite absolument caricatural qui verse immédiatement dans l'attaque personnelle et dans l'invective. Ça, franchement, c'est une pédagogie politique absolument efficace et incontestable.
D'ailleurs, Lionel, Donald Trump l'a compris tout de suite, puisque dans le début de sa conférence de presse, il fait hommage.
Référence et hommage
à Brigitte Macron. Il a senti aussi que Bolsonaro, ça se faisait pas. Quoi. Ouais. Et pourtant, de ce point de vue-là, il lui arrive de faire des choses qui ne se font pas non plus.
Parole d'expert.
Voilà, exactement. Il est un connaisseur en la matière. Charles Villeneuve, Emmanuel Macron met les points sur les i. Il se fait respecter par, évidemment, en diplomatie, c'est le béaba, j'allais dire. D'autant que lui-même se fait aussi insulter par le ministre brésilien de l'Éducation. Il qualifie le président français de crétin opportuniste. On a touché le fond.
Non, mais c'est la même équipe, c'est la même mentalité, c'est la même formation, c'est les mêmes invectives. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'un des ministres a pris position en faveur, dans la foulée, du président de la République brésilien.
Et pardon, mais c'est le style caractéristique de l'extrême droite,
toujours.
On s'attaque dans des grands pays.
On s'attaque toujours comme ça que ça se passe. De manière impudique et scandaleuse au physique. C'est caractéristique de l'extrême droite.
Alors, les pays du G7 vont débloquer une aide d'urgence de 20 millions d'euros pour lutter contre les incendies en Amazonie. Voilà ce qui en est ressorti. 20 millions de la part de 7 pays industrialisés. J'aimerais bien vous entendre, mais d'abord, on va entendre Magali depuis les Yvelines. Vous nous appelez Magali. Merci à vous. Vous avez suivi ce sommet. Qu'est-ce que vous en retenez sur l'aspect, évidemment, des incendies en Amazonie, notamment ?
Alors déjà, bonsoir. Je me réjouis que ça ait été un des grands thèmes du G7. D'ailleurs, ça aurait été indécent qu'on en parle pas, parce que l'été 2019 aura été vraiment l'été du réchauffement climatique. Il n'y a pas une journée où ce sujet n'a pas été abordé. Je trouve ça super qu'il y ait des plans de reforestation qui soient mis en place, qu'il y ait une charte de biodiversité qui a été signée. Néanmoins, à mon avis, ce serait inutile si en face, on n'a pas des mesures et des directives concrètes autour de l'élevage intensif, donc de la consommation de viande, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est ce qui cause la déforestation, et puis la culture de l'huile de palme. Si on continue à avoir des grandes marques dans nos rayons qui utilisent de l'huile de palme, ce sera complètement... complètement stérile. Donc, c'est super qu'il y ait de grandes annonces, mais maintenant, il faut
que ce soit suivi des faits.
Mais surtout des actions logiques.
Des actions logiques et concrètes, bien sûr.
Mettre de l'argent pour la reforestation de l'Amazonie, ça sert à quoi si en face on continue de tout raser pour mettre des animaux d'élevage,
je crois que là-dessus on est
tous
d'accord,
pour les animaux d'élevage, voilà, qui vont servir en plus à nourrir une toute petite partie du monde, ou l'huile de palme, quoi.
Merci beaucoup Magali, je crois que là-dessus vous nous appeliez depuis les Yvelines, merci à vous. Je crois que là-dessus on est tous d'accord, il faut que ce soit suivi des faits. Moi, quand je vois 20 millions de la part de 7 pays industrialisés pour lutter contre les incendies en Amazonie, j'ai ce premier effet que je me dis, on se moque de qui ?
Un petit tour de table rapide et on va conclure. De toutes les puissances qui étaient réunies autour de la table au G7, mais simplement tout ça sera réglé en septembre, au moment de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est là, si vous voulez, que la quête, en quelque sorte, et les budgets qui seront votés, en tout cas acceptés, seront bien plus importants que les 20 millions d'euros.
Encore faut-il que Bolsonaro accepte l'aide des Occidentaux ou qu'il la réclame.
Merci à tous les trois. Merci Hervé Gattegno, Charles Villeneuve, Michel Cotta. Vous revenez demain ? Charles, Michel,
Hervé,
vous allez revenir. Bon, vous allez revenir.
Voilà.
Et les auditeurs seront là au
3921. On est là tous les soirs, sauf demain.
Vous serez fidèles. Je compte sur vous, moi, en tout cas, dans ce studio. Merci beaucoup. Europe 1.